Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Carmen Maria Machado est une jeune écrivaine américaine. Dans un récit recensé par l'Obs, elle raconte sa relation toxique, abusive, sous l'emprise d'une femme, également auteure. Dans un des premiers chapitres, elle essaie notamment de donner à comprendre la quantité d'énergie mentale qu'elle doit déployer face à cette femme pour faire des choix, trouver la bonne réaction ou seulement répondre. Ce matin-là, par exemple, au réveil, un peu doux et laiteux, elle se tourne dans le lit vers sa compagne qui lui jette alors un regard noir. Elle ne se souvient pas d'être passée si vite du calme à la terreur. « Tu n'as pas arrêté de bouger cette nuit, lui dit-elle. Tu m'as donné des coups avec ton bras et tes épaules. Ça m'a réveillée. » Plusieurs choix s'offrent alors à la narratrice. Par exemple, s'excuser platement. Vouloir, en se confondant, que la douceur du matin revienne, que ce mauvais départ n'ait pas eu lieu. Mais ce qui s'ensuivra sera terrible. « Tu es vraiment désolée ou tu fais semblant ? Prouve-moi que tu es désolée. » Et ça ne s'arrête jamais là. Elle peut aussi chercher une solution. « La prochaine fois, réveille-moi et j'irai dormir sur le canapé. » Mais ce qui s'ensuivra ne sera jamais mieux. C'est le principe. Elle est prise au piège. Cette relation la tue à petit feu. Que le couple soit homosexuel ne semble, hélas, pas altérer les mécanismes terrifiants de l'emprise. Même si la culture dominante vous considère comme une anomalie, dit Machado, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être banal, aussi banal que n'importe quelle saloperie. Mais c'est un autre sujet. Tout de suite, ce sont deux autres histoires d'emprise dans des contextes très différents par Valérie Borst et Elodie Maillot.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Sophie Ducret, j'exerce la profession de coach de vie, formatrice coach, j'ai 47 ans. Mon père exerçait la profession de diplomate, donc je déménageais tous les 2-3 ans de pays en pays. Je dirais pour caractériser, ma mère est très froide et mon père, il pouvait être violent, virulent. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu dans la peur. J'avais peur de tout, j'avais peur de tous. J'arrive en Suisse et je me retrouve à 16 ans dans mon pays d'origine, mais que je ne connaissais pas. Je me retrouvais quand même comme une étrangère chez moi, quelque part, au moment où j'étais censée m'établir. Voilà. J'ai à ce moment-là un professeur de philosophie absolument incroyable qui pose des questions sur vraiment le sens de la vie, pour qu'est-ce qu'on fait là sur cette terre. Je m'accroche comme à une bouée de sauvetage à la philosophie. Je trouve que tout le reste est assez fade et superficiel. Et ce professeur est passionnant. Et je décide finalement de faire la philosophie. Et je rencontre en même temps la communauté Saint-Jean, dont l'enseignement est basé essentiellement sur la philosophie. Et là, je me lie d'amitié avec un des frères de la communauté, frère Lamorac, qui va me dire que aucune philosophie ne vaut vraiment la peine à part celle du fondateur de la communauté Saint-Jean, le père Philippe, qui lui seul a vraiment compris le sens de la vie et la vérité. Et il me donne un livre que je trouve extraordinaire. Je lis ce livre et je me dis, là, j'ai vraiment les réponses aux questions que je me pose. Et il me donne aussi des cassettes, des enseignements audio. Et ça, c'est beaucoup plus fort encore. Voilà, c'est comme si je tombais amoureuse de cette philosophie-là. Et dans la pratique, c'est la fusion. Il y a la pensée du père Philippe vers laquelle il faut s'accorder, voire adhérer de tout son être jusqu'à abdiquer de soi-même. Et le prêtre Lamorac me dit « Tu dois aller dans l'école fondée par le père Philippe à Paris. » Je décide de m'inscrire là-bas et c'est une école privée, donc il faut suivre la Sorbonne en parallèle pour avoir un papier valable d'État. Dans la classe, on est une douzaine, je me sens bien. On était entre nous, on passait beaucoup de temps à critiquer aussi les autres façons de penser. On disait, mais c'est dommage, il faudrait qu'ils découvrent parce qu'ils sont à la superficie de la vie, quoi. Je commençais à ne parler plus que de ça. Et mes parents ou ma sœur, ils disaient, bon, Sophie, tout le temps, Saint-Jean, faut aussi un peu s'ouvrir l'esprit. Mais j'avais besoin de ça. et j'arrivais pas à faire autrement. Donc je suis essentiellement cet enseignement-là jusqu'à obtenir le diplôme. Je me suis mariée en faisant découvrir d'abord à mon fiancé la communauté Saint-Jean pour qu'on devienne oblat, c'est-à-dire qu'on est consacré à Dieu à travers la communauté Saint-Jean. On fait partie de la famille Saint-Jean. On a une règle de vie avec des prières quotidiennes, avec des moments de ressourcement où on va suivre des retraites et des enseignements. On est très impliqué dans l'apostolat. Apostolat, ça veut dire qu'on essaye de faire découvrir la communauté Saint-Jean pour nourrir intellectuellement et nourrir la foi des gens. J'avais une santé qui se détériorait beaucoup. Je mettais ça sur le compte des enfants. Voilà. Treize années plus tard, au moment où je me réveille, c'est juste des bouillonnements de douleur. Il n'y a pas encore d'images ou de souvenirs qui reviennent pour l'instant, mais la sensation d'être une merde. Mais c'est tellement violent, ça va se passer comme des flashbacks. J'étais partie à un camp organisé par Frère Lamorac pendant l'été. Frère Lamorac, en qui j'avais une confiance, je crois, quasi absolue. Je voyais juste que petit à petit, je perdais ma propre volonté et que j'étais prête à faire tout ce qu'il voulait. Pourvu que je sois dans l'obéissance, dans l'abandon, dans le don de moi-même, et donc c'est comme ça que j'allais vers la sainteté. Parce que la théorie du Père Philippe, une des plus importantes en tout cas, c'est l'amour d'amitié. Frère Lamorac commence à me parler de l'amour d'amitié, en me disant c'est un amour qui s'incarne dans les gestes. Les gestes permettent d'aller jusqu'au bout, et c'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. Et là, il me prend dans ses bras. Alors c'est merveilleux d'être pris dans les bras a priori, jusqu'au jour où il s'approche pour m'embrasser sur la bouche. Pour moi, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, c'était clair et net que c'était pas juste. Et j'ai dit non. Et il a dit, ce sera très dur pour moi, mais je serai patient. Et un jour, tu seras prête à vivre ça. Et je me disais, voilà, je suis pas prête. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Si je veux pas de ça, c'est qu'il y a un problème chez moi. Et puis il prend ma main pour se caresser les fesses. Moi, c'était instinctif. Je retire ma main. Enfin, je ne voulais pas de ça. Donc je retire ma main. Il la reprend et il me chuchote dans l'oreille, Sophie, dans l'amour d'amitié, on a les mêmes désirs. Ça voulait dire, tu dois vouloir. On veut ou on veut pas. Mais là, c'était mettre ensemble le devoir et le vouloir. C'était impossible. Et donc, quand c'est impossible, eh ben, on ne pense plus, on ne cherche plus à comprendre et on se laisse faire, quoi. C'était la première fois que je touchais un homme et que j'étais dévêtue. Le premier sexe d'homme que j'ai vu, c'est le sien. La chose la plus facile à faire, c'est d'abdiquer, de sortir de soi, d'attendre que ça passe et d'oublier. Le cerveau fait tout seul le mécanisme. Quand ça s'arrête, je sors de là, je n'ai rien vécu. Alors, il y a eu d'autres fois, après ça a été beaucoup plus loin. Il voulait que je le masturbe, il se frottait sur moi, il voulait me déshabiller pour me regarder et être excité. Et puis il me caressait un peu, mais ça l'intéressait pas trop. Et puis à un moment donné, il a pris ma tête pour l'amener sur son sexe. Et je savais absolument pas ce qu'il voulait de moi, je trouvais ça juste immonde. J'ai retiré ma tête, violemment. Il a dit pardon, il s'est rhabillé. Et il avait l'art de savoir dire pardon au bon moment, quand il voyait que ça allait trop loin, pour faire baisser la garde chez moi. Et me dire, mais en fait, il est gentil, il m'oblige jamais. Il n'y a rien de violent, en fait. C'est moi qui me laisse faire, quoi. J'ai qu'à pas. Il a dit, je sais pas quoi faire, ça remet en cause mon sacerdoce. Et j'ai eu pitié. À un moment donné, il a dit, tu peux aller me dénoncer. Et je me suis dit, mais quelle horreur! Il souffre déjà assez comme ça. Il faut juste l'aider, quoi. Moi, le dénoncer, mais quelle abomination! J'étais même déçue. Je me disais, comment est-ce qu'il peut penser que je sois une personne mauvaise à ce point? Puis il m'a dit, est-ce que tu me pardonnes? J'ai dit, mais bien sûr que je te pardonne. Il me donnait l'impression que je prenais des décisions quand c'était lui qui les prenait. J'avais l'impression d'être jamais à la hauteur, et puis à certains moments, d'être quand même aussi au-dessus des autres, mais grâce à lui. Et donc, tout dépendait de lui. Et il avait ma vie entre ses mains, en fait. Avec des moments tout à coup qui m'accordaient, je t'emmène demain en voiture, on va aller voir la maison de Marthe Robin, qui est celle par qui a été fondée la communauté Saint-Jean. On va faire une journée ensemble. J'étais là, mais waouh, quoi, moi, ce privilège, mais c'est extraordinaire. Et j'étais remplie de gratitude par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il se construisait aussi autour de lui comme un harem. Et tout le monde essayait d'être parmi ses préférés. Donc il y avait cette espèce de tension, de jalousie. Et je pensais que j'étais la seule qui vivait une intimité physique avec lui. Parce qu'il me disait, tu es la seule, tu es la plus, tu es celle qui, par rapport aux autres. Non seulement je n'étais pas la seule, mais il y en avait d'autres en même temps que moi. Je me disais que j'étais pas importante pour lui. Là, je me disais, il y a eu mensonge, je me suis fait avoir. On se voyait très régulièrement. Il me disait, viens me voir à tel moment, et puis c'était juste avant la messe. Comme ça, il pouvait après se laver de ses péchés. Donc j'allais à la messe célébrée par lui en semaine, et il disait, il faut venir à la confession régulièrement. Et c'est dans ces moments-là qu'on allait dans une pièce à l'écart, seule. Je sais qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Des moments où, de fin d'abus, mais je me souviens plus de ce qu'on a fait. Puisqu'on s'anesthésie et qu'on sort de son corps, comment voulez-vous bouger un corps qui n'est plus... On bouge plus, donc on se laisse faire. Et alors après, on se dit, je me suis laissé faire. Donc, quelque part, je l'ai voulu. À soi-même, on se le dit. Et ensuite, tout ce qu'on s'est dit à soi-même et qu'on se rend compte à quel point c'était faux, c'est les autres qui nous le disent. Oui, mais tu étais adulte, donc consentante, et tu t'es pas défendue, tu as pas dit non, et il ne t'a pas violentée. Alors, avec tout ça, comment vous voulez-vous expliquer ? C'est quand j'ai fait le tour de la communauté Saint-Jean, les supérieurs générales et tout, et que j'ai vu qu'on ne m'écoutait pas, ou qu'on faisait semblant de m'écouter, mais qu'on faisait rien, que j'ai osé en parler à quelqu'un en dehors de la communauté. Quinze ans plus tard, après les faits, je porte plainte et il a avoué les faits, mais c'était prescrit. Tout juste. Il y a eu un procès canonique aussi. Le juge a jugé qu'il devait y avoir condamnation. Le frère Lamoura a été demandé un recours pour que la condamnation soit levée. Elle a été levée. Donc il est encore prêtre aujourd'hui. Il s'occupe de jeunes filles. Voilà. Tout ça pour ça. Juste à dire Amen, gloire à Dieu.
Je m'appelle Brigitte, j'ai 68 ans. J'ai grandi dans un milieu bercé par la religion catholique et j'étais... investi en paroisse, pour moi c'est une partie importante de ma vie. C'est là, dans ce milieu, que j'avais essentiellement mes relations amicales. J'étais investi au total à peu près 18 ans en paroisse. Du fait qu'on partageait la même foi, ça nous rapprochait et ça augmentait le sentiment de confiance qu'on avait les unes dans les autres. Après le décès de mon père, ma mère me mettait beaucoup de pression pour que je m'occupe d'elle. Et c'est l'une de ses amies qui m'a conseillé d'aller voir une personne qu'elle-même voyait, en qui elle avait toute confiance, Et en fait, cette personne que je suis allée voir s'est révélée être un manipulateur, un gourou, on peut dire. J'ai été sous son emprise mentale pendant 5 ans. Il n'y a pas de groupe sectaire derrière. C'est une personne seule qui avait sous son emprise un certain nombre de personnes. Alors on me le présente plutôt comme une sorte de thérapeute qui a une méthode pas ordinaire, mais qui donne des très bons résultats, parce que mon amie était très contente de le voir, son mari allait le voir aussi. J'avais une grande attente par rapport à cette personne, parce que j'étais aussi sous antidépresseurs et je voulais pas terminer ma vie avec des antidépresseurs. Premier rendez-vous, j'étais un peu stressée. Il parlait toujours de façon autoritaire. Il m'a impressionnée dès la première séance. Et il recevait dans les locaux de son entreprise de matériel de sécurité pour les entreprises qui font des travaux, donc des chaussures, des casques de sécurité. Et une fois que je suis rentrée dans le local de son entreprise, il a baissé le rideau de fer de la porte d'entrée. Je me suis rassurée en me disant, puisque mes amis lui font confiance, je n'ai pas à m'inquiéter. Après cette première séance, j'avais pas tellement envie de retourner le voir, je dois dire. Mais j'en ai parlé à une de mes amies de la paroisse qui allait le voir et elle m'a poussée à aller le voir malgré tout, en me disant que si je faisais rien, j'allais pas m'en sortir. Donc je me suis un peu contrainte au départ. Puis après, il y a eu toute une phase de séduction où les séances se passaient dans une atmosphère très calme, convivial, et il m'offrait du thé, il se présentait comme l'homme de la situation, qui allait me sortir de mon mal-être, qui avait réussi à aider déjà beaucoup de personnes. Donc moi, petit à petit, je me suis décontractée, et on ne se rend pas compte que la toile se tisse. Mes amis avaient coupé aussi toute relation avec leurs parents. Quand je disais à l'une d'elles, mais moi, ce qu'il me demande, c'est vraiment difficile pour moi de faire ça. Elle m'encourageait, elle me disait, mais courage, c'est un long travail de travailler sur soi, c'est normal que ce soit difficile, courage. J'ai une amie qui m'avait dit qu'il l'avait fait évoluer spirituellement. Moi, je n'étais pas opposée aussi à ce qu'il m'aide sur ce plan-là. Il mettait la pression psychologique en me disant « c'est à vous de savoir si vous voulez vous en sortir. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous n'en sortirez jamais. » Il me dévalorisait, il me culpabilisait. Puis dans ses propos, il mélangeait toujours le vrai et le faux. Ce qui fait que ça vous perturbe complètement, parce que vous ne savez plus où est le vrai, où est le faux dans ce que vous vivez. Et après, vous finissez par plus avoir confiance dans ce que vous faites et vous remettre entièrement à lui. Et c'est ce qu'il cherche. Il m'a demandé de me dessiner nue. Il a trouvé que j'avais fait des petits seins et que c'était des seins de petite fille alors que j'étais une femme. Et il m'a dit, il faut que vous preniez conscience de votre corps. C'est important pour justement vous alliez mieux. Et je vous propose une séance de bioénergie. C'est une méthode qui aide à être bien dans son corps. J'ai une de mes amies qui me l'avait chaudement recommandé m'avait dit, tu verras, il te fera faire de la bioénergie, il te demandera de te mettre nu, mais ne t'inquiète pas, il est très respectueux. Bon, mais ça n'a pas été facile pour moi quand même. Il me disait que c'était grâce à ça qu'on allait prendre de l'assurance par rapport aux autres, que c'était le meilleur moyen justement d'être plus sûr de soi. Quand il est rentré dans la pièce, il a serré mes bras pour que je prenne conscience de mon corps. Et puis après, il m'a demandé donc de m'allonger, nue. Ça m'avait fait du bien, le contact physique qu'il avait eu au niveau de mes bras. Mais de me trouver nue, allongée, comme ça, sous son regard, je n'étais pas du tout à l'aise. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine. Je me sentais humiliée de faire ça devant lui, mais je l'ai fait, parce que quand on est sous emprise, c'est plus fort que nous, on s'exécute. J'allais une fois par semaine, j'y allais à 19h30 et ça durait au moins jusqu'à 22h30 et des fois plus tard, comme s'il voulait me garder encore un peu plus longtemps. Je payais 40€ la séance au départ et ensuite 45€. Quand vous y allez pendant 5 ans une fois par semaine et que vous donnez 45€ et que vous n'êtes pas la seule personne, il y a des personnes qui y allaient depuis 15 ans, 18 ans. Ça finit par faire des petites sommes quand même. Au début, je voulais surtout parler des problèmes de mon enfance, des problèmes de relation avec ma mère, avec ma sœur. Et je lui parlais de mon mari comme quelqu'un qui était gentil et avec qui tout se passait bien. Et je commençais à me méfier de tout le monde. J'ai commencé à me méfier aussi de mon mari. Dès qu'il y a eu un petit accrochage entre nous deux, bon, comme il y en a dans tous les couples, ben, il s'en est servi. Et pour me pousser... progressivement à demander le divorce. Moi, je voulais divorcer, mon mari ne voulait pas. Le juge avait prononcé donc une séparation de corps de 2 ans. On vivait séparément. Comme je ne travaillais pas, j'avais l'usage de la maison. Mon mari me versait une pension et mon mari devait quitter le domicile conjugal. Lui, il ne comprenait pas. Il ne me reconnaissait plus. Mes fils ne me reconnaissaient plus. Donc là, ils ont commencé à se dire qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je devenais agressive dans mes propos, alors que j'avais jamais été comme ça. J'étais quelqu'un plutôt de doux, plutôt maternel, et j'ai envoyé des lettres horribles. Je ne peux même pas les relire maintenant, tellement ça me fait mal de voir ce que j'ai écrit sous la dictée de ce gourou à mes fils et à mon mari. Donc, ils se sont bien rendus compte que je n'étais plus la même personne. Un de mes fils dit, on dirait qu'elle est sous l'influence d'un gourou. Donc il a cherché un cabinet d'avocats qui était spécialisé dans les dérives sectaires et il a trouvé ce cabinet et qu'il leur a dit, bah oui, votre maman est sous l'emprise mentale d'un gourou. Et ils ont réussi à trouver 2 personnes qui étaient allées le voir, ce gourou. Et l'une de ces personnes a dit qu'elle avait été violée par le gourou. Pendant sa garde à vue, j'ai été appelée par les gendarmes comme témoin. Ils me disent, me demandent, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait du mal? Est-ce que vous connaissez un couple où le mari et la femme se sont séparés après l'avoir vu? Alors je dis non, moi non, je connais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une plainte déposée pour viol? Alors je dis, ben non, je dis, c'est pas possible. Je dis, moi j'ai toute confiance, c'est une cabale qui est montée contre lui. Donc moi je n'entends rien. Je prends la défense du gourou. Donc ça c'était un mardi. Le samedi, j'ai une de mes amies qui demande à me voir avec son mari. Et là, ils me disent que leur fille a été violée par le gourou. C'était les personnes qui m'avaient recommandé ce monsieur. Là, c'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de mes yeux et que je me suis dit, mais j'ai fait confiance pendant 5 ans à un homme qui ne le méritait pas. Au cours du procès, il y a mon avocate qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée en disant qu'on était dans une prison mentale et que pour soulever le rideau de fer, quand on veut s'en sortir, c'est très difficile et c'est très long. Et c'est ça, c'est douloureux de refaire surface quand on a été pendant 5 ans sous emprise. Le procès a eu lieu et il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Voilà. Il m'a fallu 1 an pour que je dise à mon mari de revenir à la maison. 1 an après la mise en examen du gourou. Parce que le gourou me l'avait tellement démoli dans ma tête que même si j'avais au fond de moi une résistance par rapport à ce que me disait le gourou, Je ne savais plus très bien où j'en étais. Mon mari a commencé par m'écrire, m'en prendre contact par lettre. Et il disait qu'il comprenait ce que j'avais vécu, qu'il savait que c'était difficile pour moi, mais que lui, bah, son amour pour moi était toujours le même, qu'il n'avait pas changé. Moi, j'avais besoin de reprendre confiance en lui. J'ai demandé des explications sur les événements qu'on avait vécus. J'avais besoin qu'il me donne sa vérité, sa version, pour pouvoir éliminer la version du gourou. Un petit exemple comme ça, le gourou voulait que j'achète une deuxième voiture. Mon mari était alors en déplacement, donc je lui ai envoyé un message en disant « J'aimerais bien avoir une petite voiture pour moi. Est-ce que tu es d'accord ?» Et mon mari me répond « Bah oui, bien sûr. Donc je vais m'acheter une petite C3 d'occasion. » Et quand j'ai dit au gourou que j'avais acheté une voiture d'occasion, il m'a dit « Mais comment ? Mais votre mari, il aurait dû vous dire de vous acheter une voiture neuve. Il n'y a pas de raison que lui, il achète des voitures neuves et vous, des voitures d'occasion. Il ne vous respecte pas. » Donc voilà, je suis revenue sur des petites choses comme ça qui avaient lieu avec mon mari. Et lui, il m'a dit « Tu aurais pu acheter une voiture neuve, c'était pareil pour moi. C'est toi qui as choisi d'acheter une voiture d'occasion, c'est pas moi qui te l'ai dit. » Là, ça fait des clics. J'avais besoin de remettre en ordre tout ce qui était passé avec mon mari et que le gourou avait interprété de façon à me monter contre lui. Et ça a été difficile au départ parce que dès qu'il y avait un petit désaccord entre nous, j'explosais. Je supportais pas. C'était trop difficile pour moi. Surtout les deux dernières années où j'étais sous emprise, j'ai vécu sous une pression intense. Il m'avait entraînée dans une paranoïa par rapport à mes fils, par rapport à mon mari. Et bah, il faut du temps pour que la pression retombe. La moindre petite contrariété est insupportable.
Vous n'avez pas l'air comme ça.
Oui, mais bon, là, il y a 8 ans maintenant quand même, heureusement. En 8 ans, j'ai progressé. Heureusement pour moi.
Softly on my heart, oh soft wind coming from the past, Roman and Ottoman, from mountains into the rotten trunks. This is the prayer from
C'était L'Emprise, un reportage de Valérie Borst et Elodie Maillot, réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Manuel Couturier. Attaché de production, Mélissa Foust, Roxane Poulain. Merci à Brigitte, à Maître Picotin et à son cabinet, ainsi qu'à Sophie Ducré.
Smiles and swords and hundreds you spend with Cupid's arrows, give speech to your human sculptors upon your bridges and fountains.